Professeur Sebaoun, bonjour.
Bonjour monsieur.
Aujourd'hui, nous allons parler de la pathologie qui s'appelle le myélome.
Alors, le myélome, on pourrait parler pendant longtemps du myélome, mais je vais essayer de donner un aperçu de cette pathologie en peu de temps et en montrant surtout un peu quelle a été l'évolution des traitements et les progrès thérapeutiques dans cette affection. Alors, le myélome, qu'on appelle encore maladie de Kahler, est une maladie assez fréquente quand même, une maladie maligne assez fréquente, qui est en gros l'équivalent, enfin pour parler un peu crûment et un peu directement, qui est l'équivalent d'un cancer des os, puisque ça touche la moelle des os et que ça entraîne des lésions osseuses, en d'autres termes des trous dans les os, quoi, hein, et puis quelquefois des fractures anormales. Mais la caractéristique de ce myélome, c'est une caractéristique biologique, c'est-à-dire que cette maladie est caractérisée par une prolifération de cellules anormales, qu'on appelle les plasmocytes, et qui ont la propriété de sécréter une immunoglobuline schématiquement c'est un anticorps, mais à des taux considérablement anormaux. Et c'est cette augmentation de la production d'immunoglobuline qui est responsable de tous les signes de la maladie, de la dégradation de l'état général, des douleurs osseuses, de complications rénales, pour citer les plus fréquentes. Le myélome est une maladie qui, malheureusement encore, reste une maladie qui n'est pas guérissable. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas faire de traitement. Au contraire, on peut faire des traitements. Il y a eu dans ces dernières années des progrès thérapeutiques assez considérables qui ont complètement changé la vision du traitement de cette pathologie. Autrefois, on donnait des médicaments qui avaient pour but de détruire complètement les cellules anormales. En gros, c'est de la chimiothérapie, plus ou moins forte, plus ou moins intensive. Et c'était le traitement standard qui permettait d'avoir des réponses, mais des réponses, on va dire, assez limitées et seulement schématiquement d'à peu près 50% des cas, ce qui malheureusement n'était pas satisfaisant. Et il y a eu un progrès assez significatif, mais qui date maintenant déjà d'une quinzaine d'années. C'est-à-dire que dans le myélome, on commençait par, chez les sujets jeunes ça veut dire moins de 65 ans, on commençait par détruire la population de cellules malades, ces plasmocytes malades, par de la chimiothérapie. Et après, on faisait ce qu'on appelle une autogreffe de cellules souches. On collectait avec un système de citaphérèse des cellules souches donc dans le sang circulant. On faisait une chimiothérapie extrêmement forte, à dose létale, c'est-à-dire à dose mortelle, sauf que on sauvait ces patients en leur réinjectant leurs propres cellules souches qu'on avait congelées et qui allaient reconstituer toutes leurs cellules sanguines. Et c'était cette stratégie qui permettait d'avoir déjà de meilleurs résultats. Et puis progressivement, on a montré que deux autogreffes, c'était mieux qu'une seule autogreffe. Et puis ensuite, il y a une classe de médicaments qui est arrivée sur le marché, qui n'était plus de la chimiothérapie, mais qui représentait ce qu'on appelle la classe des immunomodulateurs. Ces immunomodulateurs sont considérés comme de la chimiothérapie, mais sans être réellement de la chimiothérapie, sans en avoir les inconvénients, et bien sûr en ayant des effets secondaires, mais qui pour la plupart sont quand même maîtrisables. Et avec ces immunomodulateurs, donc on était beaucoup moins nocifs qu'avec la chimiothérapie, et puis on a montré que finalement, faire deux autogreffes, c'était pas toujours indispensable, et que chez certains patients, une autogreffe suffisait quand on avait une bonne réponse après une première autogreffe. Et puis ensuite, on a montré que l'addition d'un immunomodulateur après l'autogreffe permettait de consolider les résultats et de donner des survies, quand je dis des survies, mais des survies en rémission et même en rémission complète de longue durée. Si bien que ce sont des évolutions thérapeutiques qui ont été progressives au fil des années et on est passé en l'espace de 15 ans d'une maladie qui était constamment mortelle en l'espace de 3 à 5 ans, maintenant à une maladie Bon, on peut pas dire qu'on la guérisse, mais on a des survies avec des rémissions complètes, des rémissions partielles, mais les rémissions partielles sont tout à fait acceptables quand elles sont compatibles avec une qualité de vie identique à un sujet qui n'est pas malade. Donc on a des gens qui vivent 10-15 ans avec une bonne qualité de vie. Voilà, donc c'est un exemple où les progrès ont été progressifs, et les progrès, en fait, c'est des progrès de tous les jours, et ils continuent, puisque maintenant, alors que la stratégie de l'autogreffe était en quelque sorte un dogme par lequel il fallait passer pour avoir les meilleurs résultats et les meilleures rémissions complètes, maintenant il y a des essais thérapeutiques qui, avec des combinaisons d'immunomodulateurs, sont à l'étude et qui peuvent donner des résultats aussi bons qu'avec l'autogreffe. Et probablement dans un avenir très proche, mais très proche, ça sera l'année prochaine, qu'on pourra probablement se passer de l'autogreffe et réserver l'autogreffe à des malades qui ne répondent pas ou qui rechuteront après un traitement standard. Donc voilà un exemple où on a eu dans une maladie qui était très péjorative des améliorations thérapeutiques, certes progressives, certes assez modestes, parce que on n'est jamais satisfait quand on guérit pas les patients, on n'est pas satisfait, mais qui ont quand même un peu bouleversé l'évolution de cette pathologie.
Professeur Sebaoun, au niveau de la France, combien de personnes sont atteintes par cette pathologie?
Alors, je peux pas vous donner de chiffres exacts, bien sûr, c'est difficile, mais c'est une pathologie qui est assez fréquente, qui est d'autant plus fréquente qu'on s'adresse à une population âgée. Et en particulier, on sait que il y a des anomalies biologiques, ce qu'on appelle des dysglobulinémies, qui sont, elles, très fréquentes, et qui, dans la plupart des cas, restent stables, mais on sait que ces anomalies, même si elles ne correspondent pas à des maladies, demandent à être surveillées, parce qu'on sait qu'il y a à peu près entre 10 à 20% de ces dysglobulinémies peuvent évoluer vers un myélome. Donc il y a les myélomes qui apparaissent d'emblée, qu'on découvre d'emblée, puis il y a des myélomes qui apparaissent au cours de l'évolution d'une dysglobulinémie qui était étiquetée autrefois bénigne, mais qu'on ne peut plus étiqueter bénigne, parce que la bénignité, en fait, elle n'est confirmée que par l'évolution.
Professeur Sebaoun, je vous remercie.
Je vous en prie, monsieur.